Bonsoir, et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est les oreilles loin du front. Et ce soir, et bah, puisque c'est l'année de la fête, de l'anniversaire, de commémoration de mai 68, on va s'intéresser à mai 68 comme révolution ou pas. Et on vous passe des extraits d'une conférence Raison d'agir qui s'est tenue à Poitiers autour justement du thème de la révolution. Et les extraits qu'on va vous passer ce soir sont des extraits d'une table ronde autour justement de mai 68, à savoir, est-ce qu'on peut parler d'une révolution mai 68? Quel changement social ça a apporté? Est-ce que ça a apporté réellement un changement social ou pas? Et donc, on va entendre trois sociologues, Bernard Pudal, Boris Gobille et Éric Brun. Donc voilà pourquoi vous aurez trois voix d'hommes, hein, un peu à l'image des voix d'hommes qu'on a entendues en mai 68 d'ailleurs. Vous êtes toujours sur les oreilles loin du front et sur Fréquence Paris Pluriel et on vient d'entendre Cartouche, c'était En amour comme en émeute. Et donc ce soir, on vous passe des extraits d'une table ronde qui s'est tenue à Poitiers dans le cadre du festival Raison d'agir autour de mai 68 puisque c'est l'année qui veut ça. Et donc notre premier extrait, c'est un extrait où intervient Boris Gobille qui va tenter de répondre à une question, à savoir comment définir la révolution, qu'est-ce qu'une révolution, est-ce que mai 68 était une révolution?
Je ne pense pas qu'on puisse apporter une réponse définitive à savoir ce que c'est qu'une révolution, puisqu'effectivement les révolutions sont extrêmement différentes les unes des autres. Néanmoins, on peut réfléchir à ce qui peut constituer des paramètres communs. Moi, je ne m'étais jamais posé la question de façon frontale, mais comme on me pose assez régulièrement la question de savoir si 68 a été une révolution, évidemment, je me suis demandé si effectivement 68 avait été une révolution ou pas. Et effectivement, je pense que ça dépend des critères qu'on se donne pour définir une révolution. Ça va de soi. Mais ces critères-là ne sont pas simples. Si, par exemple, une révolution, ça n'est pas... si on associe deux critères, par exemple, un critère qui serait celui du changement de régime, il n'est pas suffisant puisqu'on a des changements de régime politique qui sont le fruit de division au sein des élites. Un coup d'État, par exemple, mène à un changement de régime. Mais ce n'est pas forcément une révolution. Alors un coup d'État peut être une révolution. Enfin, un coup d'État. Une intervention armée peut être une révolution. C'est le statut particulier de la révolution des œillets au Portugal le 25 avril 1974, puisque c'est une révolution qui est menée par des capitaines de l'armée, qui auraient été surnommés ensuite les capitaines d'avril, qui avaient servi dans les guerres coloniales du régime de Salazar, qui était une dictature catholique, empreinte de catholicisme traditionnaliste, qui a sévi du milieu des années 20 au milieu des années 70, jusqu'au 25 avril 1974, et qui, voyant ce que, au nom du régime de Salazar, on leur demandait de faire dans les guerres coloniales en Angola, en ont conçu une sorte de refus du régime dans son ensemble. Et ils ont perpétré une sorte de coup d'État le 25 avril 1974, révolution extraordinaire, parce qu'elle n'a pas fait couler de sang, hein, alors qu'il y avait d'autres parties de l'armée qui sont intervenues pour empêcher le coup d'État. Et la population est descendue. Enfin bref, c'est une histoire que vous connaissez certainement. Donc ça ne suffirait pas pour dire que c'est une révolution. Pourtant, on la qualifie de révolution la plupart du temps. Sauf que, en fait, pendant au moins un an et demi, cette révolution, ces capitaines-là étaient quand même des capitaines gauchistes. C'est rare dans l'armée, mais enfin ça existait là au Portugal. Il y a eu au moins pendant un an et demi une transformation malgré tout du fonctionnement social ordinaire. Il y avait énormément de comités de quartier, par exemple. Il y a eu des bouts d'autogestion à droite et à gauche, une effervescence extraordinaire, mais aussi une division au sein des groupes aspirant à contrôler la direction révolutionnaire, et notamment avec la force de plus en plus grande de conservateurs, c'est-à-dire au bout d'un, enfin, de conservateurs, disons, de moins gauchistes que les capitaines d'avril n'étaient. Voilà, donc ça n'a pas produit un régime révolutionnaire, comme on a l'habitude de le qualifier. Néanmoins, c'est pas idiot de l'appeler une révolution dans le sens où il y a un changement de régime net et un bouleversement du fonctionnement social au moins pendant un an et demi. Mais voilà, c'est pour dire que ce critère est un critère qui en général n'est pas suffisant. Il faut lui associer effectivement au moins l'idée qu'il y a l'émergence d'un nouveau fonctionnement social qui se caractérise peut-être par des structures économiques et sociales radicalement différentes. Si on associe ces deux critères, on ne peut pas dire que mai 68 a été une révolution. Il n'y a pas de changement de régime, il n'y a même pas de tentative de prise de pouvoir. C'est une histoire très connue, mais même lors de la nuit des barricades du 24 au 25 mai 1968, certes, la bourse est incendiée, mais plus à titre de symbole qu'à titre de paralysie des fonctions boursières. Il y a tout un tas de manifestations, en tout cas il y en a quelques-unes, qui sont passées pour l'Assemblée nationale sans même regarder l'Assemblée nationale, c'est-à-dire comme si le but n'était absolument pas de prendre le pouvoir. Mais je pense qu'on irait trop vite si on disait que pour cette raison-là, on ne peut pas qualifier 68 de révolution. Je ne dis pas qu'on peut le qualifier de révolution, mais justement ce flou dans les catégories doit nous obliger à réfléchir. En particulier, il y a un chercheur bien connu des marxistes, qui s'appelle Charles Tilly, qui était à la fois un sociologue, un historien, un politiste, un peu tout, quoi, américain, qui est mort il y a quelques années, une dizaine d'années, enfin un peu moins, qui avait distingué situation révolutionnaire et issue révolutionnaire. C'est une distinction qui est intéressante, parce que vous pouvez avoir des situations révolutionnaires qui ne débouchent pas sur des issues révolutionnaires. Mais ces situations sont révolutionnaires quand même. Au sens où, à un moment donné, émerge quelque chose comme un double pouvoir, ou en tout cas, il y a un rassemblement de groupes qui revendiquent pour leur propre compte et au nom de la masse en général, l'exercice du pouvoir. Alors, il y a des dégradés dans les situations révolutionnaires, il y a des situations, par exemple en 68, il n'y a pas véritablement de prise d'administration. Contrairement à la Commune, la Commune de Paris, c'est vraiment, on fait tourner la machine administrative de la municipalité parisienne en investissant des fonctions administratives à la place de ceux qui les occupaient dûment stipendiés par l'État, qui n'était pas l'État républicain encore pour le moment, enfin qui était en train de se mettre en place. Ce qui fait qu'ils ont été accusés ensuite, ils sont passés en procès pour usurpation de fonctions. Et usurpation de fonctions, ça vaut très cher. En 68, il n'y a pas eu de choses telles. Il y a quelques petites fonctions administratives qui ont été endossées dans la ville de Nantes. D'ailleurs, on a parlé de commune de la ville de Nantes en 68. Mais il n'y a pas quelque chose comme la prise d'une administration, faire fonctionner une administration à la place des autorités compétentes et des autorités légitimes, entre guillemets, de l'ancien régime. Néanmoins, il y a quand même à plusieurs moments une interruption du fonctionnement de l'État et un trouble dans le fonctionnement de l'État, sans parler même de la disparition de De Gaulle. Donc il y a des bouts de ce qui compose une situation révolutionnaire qui sont présents en 68. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a des éléments qui sont présents en 68 qu'on retrouve dans les révolutions. D'abord une grève générale, comme la France n'en avait jamais connue. Il y a quand même 7 millions de salariés en grève, mais peut-être 10 millions de grévistes. 7 millions, c'est le chiffre avancé par l'historien Antoine Pro. Mais il faut rajouter à ça tous ceux qui ne travaillent pas du fait même de la situation créée. Ça peut être par exemple des indépendants, il y a des employés de petits commerces par exemple, artisans boulangers, etc., qui ne travaillent pas. Il y a les étudiants qui cessent de fonctionner comme des étudiants. Il y a tout un ensemble de catégories. Les artistes, par exemple, se mobilisent et cessent de produire des œuvres ou de collaborer avec des institutions culturelles. Tout ça fait qu'on peut dire qu'il y a entre 7 et 10 millions de personnes qui cessent de travailler. Ce qui est hallucinant comme situation. Par ailleurs, il y a des éléments de révolution en 68. Il faut prendre au sérieux les discours des gens. C'est-à-dire qu'il y a énormément de références à des expériences révolutionnaires passées. Et ça, c'est présent dans toutes les révolutions. Enfin, je ne sais pas, Bernard nous dira peut-être de quelle manière, dans la révolution de 17, il fait référence à la révolution française ou à la commune de Paris. Mais il y a toujours dans les révolutions une référence aux révolutions passées. Ce n'est pas forcément pour s'en inspirer comme modèle, mais pour s'en inspirer comme énergie, en quelque sorte, à renverser les situations. Alors, en 68, on parle de la commune, on parle des conseils... du conseillisme dans la Barcelone de 1936. On parle de groupes révolutionnaires de type autogestionnaire, comme en Ukraine début des années 20. On parle des conseils ouvriers de Hongrie de 1956, et on parle de la Commune de Paris. Il y a des références comme ça aux révolutions passées. Il y a aussi des éléments qu'on connaît tous, la mise en cause du capitalisme, de la société de consommation, de la société du spectacle, de l'exploitation économique, de l'aliénation marchande, mais aussi de l'aliénation au sein des usines, de l'aliénation même dans toute la société, par les normes sociales, autoritaires, disciplinaires, etc. Remise en cause des rapports de domination. On questionne tout ça. Il y a aussi ce qu'on retrouve dans pas mal de révolutions, une certaine forme d'imagination créatrice, quoi. C'est-à-dire il y a quand même un foisonnement de questions, de projets, de... avec une très grande créativité dans les mots d'ordre, dans les nouveaux territoires, on passe au tamis de la question. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne questionnait pas auparavant, puis qu'on se met à questionner, y compris les relations les plus simples entre les gens, ou le fonctionnement social qui sépare finalement la division sociale du travail, en quelque sorte, qui sépare les groupes sociaux entre eux. Je me souviens par exemple du comité d'action médecine qui remet en cause la division du travail thérapeutique qui exclut, qui le réserve entièrement aux médecins et qui exclut par exemple les autres personnels de la relation sanitaire ou de la relation de soins comme les infirmières par exemple, et qui vise à renverser cette division du travail. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'on questionnait jamais auparavant et qui se mettent à être questionnées. Il y a aussi une autre dimension qui est quand même importante, car je ne sais pas si on la retrouve quand même, il y a pas mal de révolutions, comme les rencontres improbables, ou ce que Bernard Pudal et Jean-Noël Retière avaient appelé les métissages sociaux, c'est-à-dire en fait des rencontres entre acteurs sociaux qui ne se rencontrent pas en temps ordinaire. On a beaucoup parlé en 68 de rendez-vous manqués entre les ouvriers et les étudiants, mais en fait quand on regarde de près, c'est pas si vrai. Bien sûr, Renaud Billancourt a été fermé aux étudiants par, en l'occurrence, la CGT. Il y a eu d'autres endroits comme ça où les ouvriers ne voulaient pas, en quelque sorte, que les étudiants se mêlent à eux, parce qu'ils estimaient, pour certains, que c'était une révolution bourgeoise qu'ils menaient, ou qu'en tout cas c'était des petits bourgeois, et qu'eux avaient leurs propres affaires, qu'ils savaient faire, eux, leur mouvement social, ils n'avaient fait personne. Mais dans pas mal d'endroits, il y a eu quand même des rencontres entre étudiants, ouvriers, parfois même paysans. Par exemple, à Nantes, il y a un comité qui fait fonctionner finalement, un comité central de grève qui fait fonctionner la ville et qui mêle des étudiants, des organisations syndicales, des ouvriers et des paysans qui viennent alimenter, ravitailler le comité de grève. Donc il y a des rencontres comme ça qui existent, qui sont des choses qu'on retrouve dans pas mal de révolutions. Et puis il y a aussi cette fameuse phrase de Che Guevara hein, qui disait « Quand l'extraordinaire devient quotidien, c'est qu'il y a révolution ». Bah oui, en 68, l'extraordinaire devient quotidien. Il y a plein de choses nouvelles, il y a plein de choses qui ne sont pas présentes. Il y a pas mal de choses qui, du fonctionnement social ordinaire qui sont suspendues. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Christine Ross qui parlait de crise du fonctionnalisme. C'est-à-dire, les étudiants ont cessé de fonctionner comme des étudiants, les ouvriers ont cessé de fonctionner comme des ouvriers, les paysans comme des paysans, etc. etc. Donc une espèce voilà, l'extraordinaire, l'inhabituel devient finalement le quotidien et c'est l'un des critères qu'on pourrait donner. Une autre chose qui est quand même présente dans toutes les révolutions, c'est la grande peur des dominants. C'est-à-dire que les dominants ont eu peur. Ils ont tellement eu peur qu'encore aujourd'hui, ils sont capables de publier... j'ai réussi à piquer, dans une radio où j'étais invité, enfin, je n'ai pas piqué, j'ai demandé, comme ils reçoivent la presse, voilà, ça m'a évité de l'acheter. Pour rien au monde je leur ai acheté, mais le numéro de Valeurs Actuelles de la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, il y a deux semaines, c'était 68, l'héritage maudit. Et il faut le lire, parce que, enfin il faut le lire, non, ne l'achetez surtout pas, mais si vous avez l'occasion de piquer à droite à gauche, ne piquez pas dans les tabacs presse, parce que vous nuisez pas seulement au journal, mais aussi aux buralistes. Mais c'est une petite plongée dans la rhétorique des années 30. Ça m'a fait drôle, en fait. Et pourtant, je le sais. Et c'est les mêmes trucs. Il y a Buisson qui est interrogé. Enfin, bon, on aura toujours l'occasion de revenir sur l'historiographie, enfin, sur la mémoire de 68, comment 68 a été travesti. Mais c'est les mêmes schémas qu'on retrouve depuis des lustres, en fait, qui sont remoulinés. Et c'est un indicateur de la grande peur et de la haine qu'a généré un mouvement comme mai 68. Et puis enfin, je crois que c'est un paramètre fondamental dans les révolutions en 68 et dans pas mal de révolutions, qu'est-ce qu'on observe ? Une forme de protagonisme des gens ordinaires. Et c'est-à-dire que les gens ordinaires, appelons par là des gens qui ne sont pas forcément politisés auparavant, qui ne sont pas des militants, qui ont parfois un rapport distant à la politique, et qui tout d'un coup, et qui viennent des classes populaires pour certains, mais pas forcément, et qui tout d'un coup vont s'investir dans le processus révolutionnaire, endosser des rôles, agir et peser sur la dynamique de la crise. Et c'est quelque chose qui a été magnifiquement travaillé sur la Révolution française par un historien italien qui s'appelle Haïm Burstein, dans un ouvrage qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle Révolutionnaire, et il montre comment les gens du peuple vont s'emparer, vont agir, finalement participer, et percevoir l'idée d'égalité comme quelque chose de pas abstrait du tout, comme quelque chose de parfaitement concret, puisque chacun peut prendre finalement une pique, je ne sais quelle arme par destination, comme on dirait dans le langage judiciaire aujourd'hui, pour prendre la vestie, pour faire un ensemble de choses, ou même tout simplement pour prendre des rôles, essayer d'assumer par exemple des fonctions de police dans son quartier, de police révolutionnaire dans son quartier, etc. etc. Ce protagonisme-là, c'est un critère fondamental, je pense, parce que c'est ce qui fait qu'une révolution est une révolution. Et pas seulement un conflit entre des militants et le pouvoir. C'est la masse des innombrables qui entre en action et qui prend véritablement des rôles. C'est un grand moment d'horizontalité, en fait. C'est la raison pour laquelle il est absolument idiot de considérer, comme le disent Goupil et Cohn-Bendit aujourd'hui, que Macron est un héritier de 68. Ça n'a aucun sens. La verticalité revendiquée, pratiquée et revendiquée par Macron est évidemment l'antithèse de l'horizontalité qui donne la parole à tout le monde. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier critère, c'est que les événements révolutionnaires, ça transforme la vie des gens. Et en 68, certes, il n'y a pas eu de prise de pouvoir, mais il y a plein de choses qui ont pesé sur la vie des gens, qui ont transformé leur vie complètement. Quoi. Voilà, c'est quelque chose sur laquelle on reviendra peut-être après dans les discussions, je dirais assez longtemps.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Japon dénonce, je renonce Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao.
Et oui, c'était Mao, Mao de la chinoise interprétée par Claude Chan sur Les oreilles loin du front, puisque ce soir, on vous passe des extraits d'une conférence qui a eu lieu dans le cadre du festival Raison d'agir à Poitiers. Et on vous passe des extraits d'une table ronde autour de la question de la révolution mai 68. L'intitulé de la table ronde, d'ailleurs, était « Croire en la révolution ». Et on vient d'écouter Boris Gobi tenter de définir ce qu'est une révolution et est-ce que mai 68 fut une révolution, avec différents critères qui sont les siens et qui, en fait, placent la définition de la révolution sur un continuum qui irait du petit trouble à l'ordre social au grand trouble à l'ordre social, l'extraordinaire qui arrive dans le quotidien et puis, bien sûr, le bouleversement de la vie des gens comme une étape marquante. Et justement, cette question du bouleversement de la vie des individus se retrouve aussi sur la deuxième question, les deuxièmes types d'extraits qu'on va vous passer, qui sont les questions de transmission, c'est-à-dire comment peut-on ou comment a-t-on transmis ce bouleversement qu'a été mai 68. Et donc, pour répondre à cette question, on va entendre de nouveau Boris Gobi, puis Éric Brun.
Sur cette question de transmission, effectivement, si on prend 68, il y a une question de transmission des expériences passées dans 68, puis je pense que dans la question de Pierre, il y avait aussi la question des transmissions de 68 après, quoi. Alors d'abord sur le fait qu'on se réfère au passé, effectivement c'est lié au fait que dans les conjonctures révolutionnaires il y a un degré d'incertitude sur ce qui se passe, à la fois sur le sens de ce qui se passe, enfin sur le sens dans les deux sens si je puis dire, c'est-à-dire sur la signification et sur la direction de ce qui se passe, qui est telle qu'effectivement les gens discutent beaucoup plus pour savoir ce qui est en train de se passer. Donc toutes les conjonctures d'incertitude sont propices finalement à ces effets, à ces activités de définition. Dans ce cadre, le fait de se référer à des expériences du passé peut être un repère, mais ce qui était intéressant en 68, c'est que ces références-là étaient aussi, jouaient aussi à la négative, c'est-à-dire que ça permettait de savoir ce qu'il ne fallait pas faire. Et par exemple, lorsque je parlais du fait qu'il était fait référence au Conseil ouvrier de Budapest en 1956, à la Barcelone anarchiste de 56 pour les Hongrois, 36 pour Barcelone, à la Commune de Paris, etc. Ce sont des secteurs engagés dans mai 68 qui puisent dans un fonds autogestionnaire et conseilliste les exemples qui leur permettront de dire toutes les autres formes de révolution, et principalement la révolution russe, ne peuvent pas servir d'exemple puisqu'ils ont débouché sur une dégénérescence bureaucratique et totalitaire et que le moyen d'éviter cette dégénérescence, c'est de promouvoir des modèles révolutionnaires qui ne définissent pas exactement ce que la société révolutionnaire doit être, mais livrent à l'activité incessante, à la discussion incessante des conseils à tous les endroits, conseils dans les usines, les conseils de quartier, etc., à tous les endroits où il y a de la décision collective à prendre, laisse à ce brouhaha de conseils, à ce brouhaha de groupes de gestionnaires, le soin de définir leur destin. Moyennant quoi, il y aura une sorte de remise en cause permanente qui empêchera la fossilisation ou la pétrification bureaucratique, et en particulier tous les phénomènes de délégation à des porte-paroles, à des chefs, et de reconstruction des hiérarchies pyramidales, qui assure la dégénérescence bureaucratique des révolutions. Par exemple, il y a un débat début juin 68 entre des acteurs du mouvement du 22 mars, qui s'est créé à Nanterre le 22 mars 68, qui est dominante, disons, anarchiste, même si c'est plus compliqué que ça, en fait, et des éléments de la JCR, donc la Jeunesse communiste révolutionnaire de l'obédience trotskiste, qui était des courants transkistes le plus proche du mouvement du 22 mars. Et certains étaient sur les deux, dans les deux groupes. Quoi. Eh bien, il y a une tension, justement, au début du mois de juin, où il y a une discussion. Ils sentent au mois de juin qu'il y a un renversement de conjoncture, qu'il y a des débuts de reprise du travail dans les usines, que en quelque sorte, le pouvoir s'est repris en main, et donc veut reprendre en main la situation, que l'annonce des élections législatives anticipées par De Gaulle, le 30 mai, a reçu l'aval de l'ensemble des forces politiques, institutionnel et même d'une certaine manière de certains syndicats, ils sentent que le vent tourne. Et donc la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le vent tourne? Et vous avez des éléments de la JCR, notamment Henri Weber par exemple, qui plus tard deviendra un sénateur socialiste, et toujours d'ailleurs, je ne sais plus, sénateur socialiste, ça c'est une autre histoire, c'est l'histoire d'après, et il dit qu'il faut structurer le mouvement, il faut hâter des processus révolutionnaires qui sont trop lents. Et surtout lorsque on est en phase de reflux. Et donc, il y a là une intention, l'intention de structurer le mouvement. Et puis en face, les éléments du mouvement du 22 mars, dont Daniel Cohn-Bendit dit non, il ne faut, faut toujours pas structurer le mouvement, il faut laisser le mouvement continuer à fonctionner par la base, horizontalement, dans une démocratie absolue et totale. Parce que si on commence à structurer, on va reconduire les vieilles formes, c'est-à-dire le comité central, le bureau politique, enfin toutes les formes de structuration pyramidale des groupes politiques qui ont, dans l'histoire, toujours fossilisé les dynamiques révolutionnaires. Donc là, on va puiser dans les exemples du passé pour dire voilà ce que la révolution ne doit pas être. Donc je pense que ça, c'est intéressant aussi, c'est que les références au passé, ce n'est pas des modèles, ça peut être des antimodèles. Et ça peut être des modèles concurrents. On se renvoie entre groupes politiques pour savoir comment agir dans la situation présente. Il y a des versions radicales. Par exemple, les surréalistes disent en 68 qu'il faut surtout ne s'en remettre à aucun code, y compris surréaliste. Il faut accueillir la totalité du nouveau de la situation. Sinon, on rate finalement la conjoncture telle qu'elle est, parce que l'histoire ne se répète jamais. Et donc, ce qui se passe en 68 n'a pas à être défini par rapport au passé. Parce que de toute façon, si on le fait, on va jauger le degré de révolutionnarité de 68 par rapport à l'expérience passée, et ça n'est pas sain. Sur la transmission en aval, c'est assez fascinant de voir que, j'ai appris ça récemment, qu'en fait, on n'enseigne pas 68. En tout cas, ce n'est pas dans les programmes scolaires, il n'y a pas de chapitre consacré à 68, paraît-il. On enseigne la 5e République et après on laisse à la liberté de l'enseignant le soin de traiter le temps qu'il voudra, de la manière qu'il voudra, les épisodes de mai 68. Alors on peut supposer que, vu le côté très chargé des programmes, bah, de toute façon ça se traduit toujours par le fait qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de ce qu'est 68. Et du coup, j'ai repensé récemment parce que. Chroniqueur, humoriste que j'aime bien, c'est Guillaume Meurice, qui fait des micro-trottoirs comme ça, où en fait il a le don quand même pour faire ressurgir la pensée de droite, mais très conservatrice, qui est quand même réactionnaire, qui est quand même assez forte. Mais là, c'était pas vraiment les réactionnaires, il est juste allé voir des jeunes comme ça, comme il dit, et il leur a demandé 68, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était pour le 22 mars, justement. Donc 68, ça vous dit quoi? Et donc il y a un mec qui dit, oh 68, je sais pas c'est quoi. C'était pas un truc avec les femmes, là? Un truc avec... Moi, je sais plus. Non, ou la Révolution? Oh, je sais plus, en fait. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il n'avait pas d'hostilité particulière. Simplement, il n'y a pas de connaissance particulière de ce que c'était que 68. Donc, au niveau institutionnel, il n'y a pas de transmission sur ce qu'a été 68. On enseigne peut-être aux universités. Il faut dire aussi que pendant longtemps, il n'y a pas eu de travaux d'histoire, de sciences sociales sérieux sur 68. Quand je dis pendant longtemps, c'est pendant au moins 25 ans. Donc, en fait, ce qui se disait sur 68, c'était un peu n'importe quoi. C'était une imagerie qui était construite par d'autres que par des historiens ou par des sociologues ou par des politistes. En revanche, des transmissions souterraines, il y en a eu beaucoup. Bernard faisait référence aux transmissions éducatives. Il y a un très bon travail de Julie Pagis qui s'appelle 68 un pavé dans leur histoire, qui, après avoir retrouvé, sur la base d'un travail sur 200 familles, je crois, quelque chose comme ça, a réussi à radiographier comment des parents qui avaient vécu 68 de près, de manière différente, mais tout de même de près, et que ça avait profondément marqué, ont transmis un certain nombre de valeurs à leurs enfants. Mais effectivement, il y a d'autres... Alors, dans le bouquin qu'on a sorti, mais 68 par celles et ceux qui l'ont vécu, et on a une de nos témoins ici dans la salle, Régine, peut-être quand on aura la discussion avec la salle, peut-être que Régine, si elle le souhaite, prendra la parole, parce que son témoignage est fascinant, c'est un de ceux qui nous a le plus plu. Mais dans ces témoignages, on a aussi parfois certains qui disent « Voilà, moi j'ai conservé ça dans ma vie comme une sorte de guide pour savoir comment agir en fait, dans différents types de situations. » Pour certains, ça a été le déclic syndical et politique. Donc des gens qui n'avaient pas de prédisposition particulière vont devenir syndicalistes. Il y a même des jeunes qui témoignent, des gens qui avaient 12 ans par exemple à l'époque, il y en a un qui va dans l'usine de son père, donc il découvre le monde usinier. Le monde du travail de son père, mais le monde usinier. Et il dit, voilà, j'ai vu ce que c'était qu'une usine occupée. Et il dit, ce jour-là, j'ai décidé que je serais ouvrier en grève pour toujours. Il y a des façons aussi d'essayer de transporter des principes de mai 68 dans des pratiques professionnelles. Francis Meldreyfus, je pense que vous pensez à ça, Bernard, tout à l'heure, aussi dans son ouvrage sur le métier d'éducateur, un chapitre sur les années 68, où elle montre effectivement les éducateurs ont essayé de repenser leur métier à l'aune de certains principes de mai. De manière générale, les métiers de la relation sociale. Quoi. Et c'est vrai que c'est plus souterrain, que c'est moins visible, que c'est moins organisé, que parfois ça ne se donne pas des formes collectives, d'une forme politique collective. Et que par conséquent, ça appartient au sillage pas très connu de mai 68, qui pourtant sont probablement les plus structurants, en fait, parce que quand un événement bouleverse une vie, ça bouleverse une vie, c'est-à-dire des décennies. Éventuellement, des effets de transmission vers les enfants, donc c'est par ce biais-là aussi que des événements révolutionnaires peuvent avoir des conséquences. Donc je pense que là, le côté transmission est important, mais il faut raisonner à l'échelle de la famille, sur 68, c'est pas forcément le bon exemple à l'échelle de l'école. Autre pratique professionnelle transformée, vous avez des avocats et des magistrats qui, dans les années 70, ouvrent des boutiques de droit et des consultations juridiques gratuites dans les quartiers populaires, notamment le quartier de la Place des Fêtes à Paris, dans le 19e arrondissement. C'était une manière, porter la justice, d'avoir une relation à la justice qui soit au bénéfice de ceux qui en sont le plus exclus, parce qu'ils ne connaissent pas le droit, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de recourir à des avocats, etc., d'où les consultations gratuites. Mais c'était aussi un moyen de donner des éléments clés du système judiciaire, disons minimaux, qui permettent aux démunis des armes pour se défendre eux-mêmes. Collectivement. Des pratiques professionnelles qui sont transformées par l'événement 68. Donc c'est toutes ces séries en fait, de transformations biographiques à un niveau micro-collectif, je dirais, qui sont intéressantes à analyser pour comprendre les effets de mai 68, au lieu d'en parler, comme on en parle très souvent dans la presse, dans les médias, etc., sous l'angle vraiment stratosphérique des grands effets de 68, qui sont évidemment non prouvables. et qui sont évidemment contestables. Ces grands effets qui permettent à la pensée anti-68, comme avait dit Serge Audier, de mouliner en permanence ces critiques sur les effets délétères de 68. Donc en fait, il faut changer d'échelle si on veut voir véritablement les effets de 68 et poser donc la question de la transmission, de l'infiltration postérieure dans les pratiques des principes de mai.
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front et on vient d'entendre Boris Gobie répondre à la question de la transmission de mai 68. On va entendre on va entendre la réponse d'Éric Brun, toujours à la même question de cette transmission de mai 68, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en reste ?
Transmission, je l'avais compris comme la question de la justement, transmission intergénérationnelle, et du coup ça me faisait écho, effectivement, jusqu'ici on a beaucoup parlé de mai 68 en mettant en avant la dynamique sur le moment, le fait qu'on ne pouvait pas l'anticiper, que dans un petit moment, il y a un renversement rapide, une crise d'autorité qui va se diffuser, etc. Et c'est vrai, quand on fait la sociologie de ce type de crise politique, on est souvent dans une opposition entre deux types d'approches que Boris Gobie, notamment, a essayé de tenir ensemble quand il parle de mai 68, c'est-à-dire analyser le moment comme une dynamique propre et qu'on ne peut pas anticiper, en réponse, en fait, à une autre approche de ces crises qui essaie de les comprendre dans leur configuration sociale, économique, politique, pour essayer de dire voilà, qu'est-ce qui amène à cette crise. Et en l'occurrence, effectivement, et ça renvoie aussi à la jeunesse, il y a des... alors c'est délicat parce que du coup je vais paraphraser l'article de Bernard paru dans le livre de Boris. Mais autant pour moi. Et du coup, effectivement, on a aussi des outils pour essayer de penser une préparation de la crise. C'est toujours délicat parce qu'on voudrait chercher quelle serait la recette qui nous permettrait de reproduire ça. Et effectivement, c'est des choses très très difficiles, mais il y a des ruptures d'allégeance qui préparent 68 dès les années 60, même peut-être un petit peu avant, du côté de la jeunesse. Effectivement, clairement, les jeunes sont aux avant-postes de ces crises de légitimité, etc., parce que aussi, voilà, c'est eux qui expérimentent les contradictions du système social et économique à ce moment-là, et notamment bon, l'analyse assez classique pour comprendre mai 68, mais revue, c'est-à-dire souvent on avait dit oui, c'est de plus en plus de jeunes accèdent à un certain niveau de diplôme, mais après, du coup, le nombre de postes, lui, il n'augmente pas, donc ils ont peur, enfin, il y a une dévaluation du diplôme et une frustration anticipée en quelque sorte. Ça a été largement revu, mais finalement réadapté. On a toujours quand même un peu ce modèle en tête. C'est-à-dire, oui, il y a une diffusion de la scolarisation qui a déchaîné, on va dire, des attentes qui n'étaient pas, qui pouvaient pas se fondre dans la figure du cadre moyen ou dans une préparation déjà des crises d'autorité du petit chef, etc., qui est liée effectivement à des situations. Donc il y a une crise de la transmission intergénérationnelle dans certains secteurs dès les années 60. C'était ça aussi, donc des parcours de refus de parvenir, du coup, effectivement, qui apparaissent dès les années 60, de gens qui ne veulent pas, et les situationnistes les incarnaient bien, c'est ceux-là, ne veulent pas arriver socialement. Moi j'essaie de ne pas en rester là, parce que ce n'est pas forcément un choix pur qui tombe du ciel, etc. C'est un choix qui renvoie à des parcours particuliers, et notamment au fait qu'ils sont dans des microcosmes qui valorisent ce refus de parvenir. Il y a une sorte de jeu qui pergagne, et c'est en refusant de parvenir que d'une certaine manière ils sont dignes de ce qu'ils essayent d'être, c'est-à-dire des révolutionnaires radicaux qui ne lâchent rien, etc. Donc voilà, sur aussi cet élément où effectivement pour l'instant on a beaucoup parlé du moment 68 comme un moment très particulier, mais c'est quelque chose de préparé aussi en amont par des situations sociales et économiques. Et sur l'avant-garde, effectivement en fait la notion d'avant-garde c'est un peu d'évaluer ce qui dans les mondes de l'art aussi elle a été dévaluée. Justement parce que beaucoup d'avant-garde paraissaient comme les futurs arrière-gardes. Et du coup, il y a une routinisation sans cesse des postures, des manières d'entrer dans un univers social, que ce soit l'art ou la politique, qui fait qu'on a tendance à moins mettre en avant l'avant-garde. Après, le mécanisme de mort, enfin, même si les gens ne le revendiquent pas, il y a des, dans tout mobilisation, il y a des minorités actives en général qui en font un peu plus et qui se pensent d'une certaine manière comme avant-garde. Et la question, c'est dans quelle mesure ils ne recréent pas un pouvoir et que c'est justement les situationnistes là-dedans, ils essayaient de pas être une avant-garde au sens marxiste-léniniste du terme. C'était vraiment leur, quelque chose qui les animait. Ils n'étaient pas là pour diriger le peuple, ils étaient là pour diffuser une théorie que le peuple, sur la colère du peuple, mais voilà, et de se mettre à la disposition du prolétariat au moment où il aura lui-même pris conscience de la nécessité de la révolution. Donc il y avait déjà cette réflexion et cette manière de se démarquer par rapport à des avant-gardes marxistes-léninistes où on va diriger le peuple. Et pourquoi j'en viens là, je ne sais plus. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais du coup, effectivement, toute la question politique actuelle, il me semble, enfin, une des questions politiques actuelles, c'est de réussir à prendre le fait qu'on n'est pas tous dans les mêmes temporalités, qu'il y en a qui ont plus les moyens d'agir à un moment donné, mais dans quelle mesure ils arrivent à... le processus va les déposséder à un moment, et plutôt que ce soit eux qui dépossèdent les gens qui sont censés juste porter la parole, quoi. Voilà, ça, c'est une vraie question ouverte. Tout à l'heure, j'ai fait comme si j'avais une réponse en disant qu'il faut faire attention à la distinction, au mépris social, etc. Parce que le verre est déjà dans le fruit quand on commence à penser qu'on est supérieur et que nous on se mobilise et que nous on est courageux et que les autres sont des médiocres, etc. Et que quand on commence à partir là-dessus, on commence déjà à lancer le processus de pétrification stalinienne ou je ne sais quoi. Mais en vérité, c'est des questions ouvertes. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite à ce niveau-là.
Les Français sont des veaux. La France entière est un pays de veaux.
C'est grand, c'est beau, c'est généreux, la France.
Combien c'est grand, combien c'est beau, combien c'est généreux, la France.
La France entière est un pays de veaux.
On ne fait rien avec un peuple couché.
Les Français sont couchés,
couchés.
Les Français sont couchés,
couchés.
Les Français sont couchés,
couchés.
Les Français sont couchés.
On ne fait rien avec un peuple
couché.
Les Français sont couchés,
couchés.
Les Français sont des veaux,
des veaux.
Les Français sont couchés et, voyez-vous, plus ils sont couchés, plus ils sont heureux.
Plus ils seront couchés,
couchés.
Plus ils seront heureux.
Comment voulez-vous gouverner un pays qui possède 240 sortes de fromage?
Et oui, vous êtes toujours sur les oreilles loin du front. C'était « Les Français sont des veaux » de « Danser avec moi ». Parce que ce soir, on parle de mai 68, de mai 68 à mai 2018, en vous passant des extraits d'une table ronde qui a eu lieu à Poitiers dans le cadre du festival « Raison d'agir ». Et on a entendu, juste avant cette petite pause, intervenir Boris Gobie et Éric Brun sur la question de la transmission de mai 68, transmission dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de mai 68, et puis aussi qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a entamé un mouvement révolutionnaire ou en tout cas un mouvement de trouble pour maintenir cette extraordinarité dans justement l'ordinarité. On vous passe maintenant un extrait qui est un peu décalé par rapport à ces extraits de chercheurs, qui est non moins intéressant, qui est le témoignage d'une auditrice qui était là à ce moment-là et qui va raconter, elle, son mai 68.
Et je n'avais pas du tout ce sens critique-là à développer, parce que quand on est dedans, on vit des choses et on ne pense pas à mettre des mots dessus. Donc, je ne savais pas que c'était une révolution, mais avant 68, parce que ce que j'ai écrit, c'est avant, pendant et après. Et après, c'est ce qui qui s'est passé à Poitiers en 71. Là, je fais une parenthèse gravissime au niveau de la fac, puisque la fac où on est ici existait, mais elle a été abandonnée, et on a basculé toute la vie étudiante à l'extérieur de Poitiers, de briques de broc, pour préparer une rentrée qui, d'après M. Vertualier, qui était le bras droit de Madeleine, Marcelin, qui avait agi en 68, comme on sait, voulait déclarer la rentrée réussie à 100%. Et en fait, ils ont bâti le campus au milieu d'une nationale, qui était la grande nationale de l'époque, poids lourd, etc., Poitiers, Limoges. Et il y a eu donc 6 accidents à la rentrée de 70-71 avec des étudiants partis au CHU. Et là, on a commencé à faire des sit-ins, c'est-à-dire il y avait beaucoup de groupuscules à la fac, beaucoup. On ne disait pas marxiste-léniniste, vous n'avez pas de temps à dire, on disait les ML, on disait les Mao Spontex, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout le monde a décidé de prendre les choses par la non-violence, entre guillemets, pour éviter d'attiser les oppositions au niveau de Poitiers, de la mairie, etc. Donc on a fait des sit-ins au carrefour pour manifester sur le fait que la rentrée était mal préparée, qu'il y avait eu des accidents et qu'il fallait trouver une solution. Ça a fini par une grève de la faim d'un mois et demi. Il y a eu beaucoup d'affrontements avec les CRS. La ville de Poitiers nous a envoyé énormément de forces armées. Il y a eu des occupations d'amphi et ça a été terrifiant. Et puis ça a fini dans les journaux d'une façon effroyable en disant exactement le contraire de ce qu'on vivait tous les jours. Donc on a découvert déjà les médias qui, évidemment, vous vivez quelque chose et vous lisez exactement l'inverse. Donc c'était aussi pour ça que les grèves de la faim et séquestration de recteurs se sont mises en place, parce qu'on ne vous écoutait pas. Et en fait, je pense qu'on a expérimenté sur nous à Poitiers ce qui avait raté en 68 au niveau des forces de l'ordre des affrontements. Il y avait des balles tournantes à ailette qui rentraient sous la peau, il y avait toutes sortes d'expérimentations qui ont été mises en place, il n'y avait plus les fameux boucliers des CRS qui étaient comme, vous savez, les raccourcis, les boucliers gaulois, mais le fameux plexiglas transparent où ils pouvaient nous voir, etc. Donc voilà, tout ça on l'a vu pour la première fois à Poitiers dans ces moments-là, en 71. Donc ça a fini, je dirais, comme on a pu, avec un beau discours d'un étudiant qui a essayé de calmer les choses, mais il y avait un monde fou qui participait à ça, puisque les parents des étudiants étaient venus et voyaient bien qu'on était victime d'injustice absolument incroyable. Donc ça, j'en parle dans le livre, mais c'est publié dans Mediapart les vendredis. Il y a 5 textes qui n'ont pas été publiés dans ce livre parce qu'il y a eu tellement de témoignages divers qu'ils ont été donc mis en ligne sur Mediapart. Et je pense que cette partie-là, vous la verrez dans un vendredi dans Mediapart puisque c'est après 68. Voilà. Alors, je vais parler de mai 68 en 2 secondes. Vraiment, je ne vais pas garder trop la parole. À Poitiers, comme on dit, il y a quelqu'un qui me l'a dit hier, c'était la ville aux 100 clochers. Moi, j'ai usé 90 clochers, c'est-à-dire plan-plan, l'ennui de province, la ville où il ne se passait rien, c'était mortel. Parce qu'il faut comprendre qu'avant 68, la vie en France était mortelle. Il y avait une chaîne qui diffusait la belle parole en noir et blanc. Quand une speakerine montrait ses cuisses, par hasard, qu'elle mettait une robe trop courte, elle était renvoyée le lendemain. Nous, au lycée, c'était effroyable. On avait, comme partout, les uniformes, etc. Mais on s'écartait un peu comme ça, on mettait un peu de fantaisie dans notre vie, de créativité même, mais c'était très, très, très mal vu. Et on ne respirait plus. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Un jour, j'ai vu un film d'amateur sur mai 68 avec l'occupation de l'Odéon. Et il y a un garçon de café qui témoignait en pleurant. C'était tellement... Ça, on n'en parle jamais, mais c'est ça avant 68. Et qui disait, je ne comprends pas, je suis là, c'est la première fois que je peux parler, qu'on m'écoute, on m'écoute. Je dis quelque chose et je n'ai pas l'habitude. Il était tellement ému, cet homme, et c'est là que j'ai trouvé vraiment
ce que nous, on vivait. Bon, évidemment, on vivait pas si mal que ça, mais les gens ont déjà commencé à rentrer dans la société de consommation tête baissée. Et quand on parle des mouvements des mains déjà de 68, c'est aussi là-dessus qu'on s'est appuyé, dans le fait qu'on était dans la contre-consommation. Beaucoup, toutes mes amies à Poitiers, au lycée ou les étudiants, c'était aussi là-dessus. On ne veut pas devenir des abrutis et des robots. On nous a pris la parole, on n'a jamais pu parler. Maintenant, on veut se faire écouter et on ne veut pas se lancer à corps perdu dans cette société qui va nous bouffer, nous broyer. C'était ça. Et alors, pour dire qu'en France, on était branché sur le débat, pas du tout. On n'était pas politisé de ce point de vue-là. On lisait beaucoup. On lisait Marx, on lisait... Théoriquement, on était vraiment gonflés de lecture. Ça, c'est... Même à 16 ans, moi j'avais 16 ans, mais je lisais beaucoup Lévi-Strauss, le structuralisme, etc. On était déjà dedans. Mais surtout, on était branchés sur la contre-culture américaine. Et ça, on en parle très peu. Les Beatles, d'accord, Led Zepp, ok, mais surtout le phénomène hippie, les communautés, la remise en question du capitalisme américain, le bread and puppet, le living theater, tout le théâtre de rue américain, ça, on était complètement branchés dessus. Alors, on feuilletait Paris Match, parce qu'on n'avait que ça comme média qui puisse nous informer directement, mais on était vraiment axés là-dessus en disant la société de demain, c'est celle-là qu'on veut, une société utopique, où dans la côte ouest, il se passe quelque chose là-bas, et on avait déjà un modèle, si vous voulez. Alors, qui se recoupait avec les modèles de la Révolution 17, parce que quand on lit Stanislavski, que j'ai lu après, qui est donc, entre guillemets, le prof de théâtre qui a formé les gens d'Actor Studio après, etc., qui vivait déjà en communauté, il en parle dans ses mémoires, mais... Je pense qu'on a une vision, surtout les gens qui sont jeunes maintenant, je suis désolée, les gens qui ne l'ont pas vraiment vécu, ou qui étaient trop trop jeunes, qui avaient 8 ans, ils n'ont pas pu comprendre qu'en fait, on n'était pas vraiment branchés sur ce qui se passait en France. Il y avait De Gaulle, il y avait les mouvements politiques, ça nous gonflait aussi terriblement. Parce que bon, il y avait la guerre, qui était finie depuis peu, les gens étaient terrorisés à l'idée de manquer de quelque chose, à manger ou quoi que ce soit. Et ça faussait vraiment la réflexion et le débat. Et au niveau de Poissy, ça a été plan-plan. Hein. La 68, on a fait des cortèges plus que presque des processions, on n'est pas des manifestations. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est là que j'ai réalisé que j'avais grandi et qu'il se passait quelque chose d'important, c'est que mon père, je l'ai su plus tard, a été arrêté par la Gestapo. Et comme il était prof de gym, il y a eu une défaillance au niveau de la surveillance. Il a pris ses jambes à son cou, il a filé chez lui alors qu'il était surveillé, prendre sa valise, il est parti chez des cousins en Charente. Et il me disait après naïvement, tu crois qu'il m'aurait fait quelque chose? Parce que voilà, il était comme ça, très positif. Et il cachait en fait des juifs et parce qu'ils avaient besoin de temps pour se refaire des papiers. Et comme il avait une salle de gym à Poitiers, avec la douche, de quoi dormir, etc., ben, il est caché là, et puis voilà. Et puis, bon, ma mère était plutôt de gauche aussi, et un jour, le 13 mai, moi, je vais à la manif, et puis mon père était de son côté avec les profs, et puis je le vois pas, mais par contre, je vois des gens au milieu de la place d'armes, là, avec des imperméables longs et des chapeaux, je croyais que c'était des journalistes. Et puis, bon, ben, je rentre chez moi, qui était dans le faubourg, et là, je trouve ma mère dans un état épouvantable. Alors je me suis dit, bon, bah, j'étais à la manif, ça ne lui plaît pas, etc. En fait, pas du tout. Elle m'a dit, mais t'as pas vu? C'est les anciens de la milice qui sont là à vous photographier. Ce n'étaient pas des journalistes. Ils étaient dans les renseignements généraux. J'ai reconnu un tel. Et là, ma mère, elle était folle parce qu'elle connaissait des étudiants qui ont été arrêtés par les Allemands, martyrisés, etc. Et beaucoup, et dont elle me disait toujours les noms. Et ce type-là, c'est lui qui les avait vendus, on sait comment, etc. Et il était là, le 13 mai 68, à nous prendre en photo. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de grandir, que je quittais la fête. Quoi. C'est-à-dire que là, c'était plus une récréation, les 68, mais que ça recommençait. Je dis, mais alors, ils sont encore là. Ça veut dire que les gens qui osent se mettre debout et dire non, il y aura toujours en face les lâches qui, eux, vont en profiter pour en faire des victimes, quelque part. Et je me suis dit, alors ça recommence. Et là, j'ai compris que j'étais quand même, enfin, on était un peu dans l'histoire, c'était comme une forme de révolution. Parce que déjà, il y avait des antagonismes, et déjà, on était jugé quelque part. On ne se met pas soi-même une étiquette quand on est là-dedans. Je ne me suis jamais dit anarchiste, ou vous voyez ce que je veux dire, ou non-violente, ou quoi que ce soit. C'est les gens qui vous mettent une étiquette. Mais là, je me suis dit, par contre, là, c'est grave. Et ça m'a vraiment changé. Moi, j'ai changé de vision à ce moment-là, de la société, et je ne me suis pas forcément engagée dans des mouvements très visibles. Mais enfin, j'ai gardé une vigilance jusqu'à présent, mais j'ai toujours pensé, à la manière de Provo, que la société était à construire ensemble, et la prise de pouvoir, c'était nous. Mais ça, alors, et j'en sors pas, mais je me dis, mais comment faire ? Il faut bien que quelqu'un prenne le pouvoir, ou un groupe. Mais moi, je trouvais ça mais débile, alors que les gens peuvent s'organiser. La société participative, c'était déjà, et mes copines aussi, hein, c'était déjà dans leur réflexion. Mais on était, tout ça, ça nous a... 68, c'est pas venu comme ça. C'est pas des jeunes bourgeois. Alors ça, c'est clair, quand on est dedans, moi, je l'ai vécu, c'était pas du tout ça. C'était même des gens méritants, comme je l'ai dit dans mon article, hein, qui habitaient les fermes au bout, qui arrivaient au dortoir au lycée par le car, et puis qui étaient embêtés quand on leur disait « t'as pas travaillé ?» Ben non, elles avaient tout à faire à la ferme, elles n'avaient pas de chambre à elles, elles faisaient les devoirs au coin de la table, au milieu des ouvriers, et comment faire, et c'était ça aussi notre quotidien, c'était pas mieux que les bourgeois, pas du tout. Il y avait beaucoup de mixité au niveau scolaire, avant 68, on était dans des classes de 55, tous mélangés, toute classe sociale.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
come. Then we'll come from the shadow.
Et oui, vous aurez reconnu le partisan de Leonard Cohen et vous êtes toujours sur Les Oreilles Loin du Front, puisque ce soir on parle révolution et particulièrement révolution de mai 68, résistance à l'ordre établi. Et on vous a passé des extraits d'une conférence qui s'est tenue à Poitiers dans le cadre du festival Raison d'agir. Et pour conclure les extraits de cette table ronde, on vous a choisi un extrait qui fait le lien justement avec la situation actuelle, les mouvements différents, les mouvements sociaux actuels. Et on revient justement sur cette question mai 68, mai 2018. Et c'est Boris Gobi qui s'y attelle.
Sur la question du présent, effectivement, c'est vrai que c'est difficile de savoir. D'abord, effectivement, pour revenir sur cette distinction qui était proposée tout à l'heure, la structuration, ça n'est pas la même chose qu'une institutionnalisation bureaucratique. On peut structurer horizontalement. D'ailleurs, il y avait en 68 l'idée qu'il fallait coordonner les comités d'action, les coordonner sans créer. Alors, il y avait un comité de coordination, mais qui était juste un comité de coordination, pas une instance décisionnaire, par exemple. Donc, effectivement, structurer. D'ailleurs, qu'est-ce que ce serait qu'une absence totale de structuration? Une anomie complète, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit... Je ne sais plus... Il y a une BD que j'aime bien aujourd'hui, c'est Les Vieux Fourneaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'adore. C'est les vieux qui... Il y a un vieux syndicaliste et il y a un vieil anarchiste. Le vieil anarchiste, il fait partie d'un collectif qui s'appelle Ni Yeux Ni Maître. C'est un collectif d'aveugles qui, en fait, crée des sortes de situations de contestation en jouant les aveugles. Et donc, en fait, on nous enregistre les aveugles. Donc ils vont dans des vernissages, etc. Ils renversent les toiles, enfin ils font tout. Mais comme on n'ose pas engueuler des aveugles, bah, du coup, on est dans un quartier libre, en quelque sorte. Et à un moment donné, l'anarchiste dit au syndicaliste, ah non, je ne sais plus si c'est le syndicaliste qui dit ça, mais l'anarchisme, c'est pas le bordel. C'est l'ordre sans le pouvoir. Donc effectivement, je pense qu'on peut créer de la structuration sans reproduire des logiques de pouvoir de type hiérarchique ou pyramidal. Mais c'est pas si simple, parce que la verticalité a quand même toujours tendance à se reconstituer. Mais peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de l'ennemi. Alors ça dépend quel ennemi on se donne. Moi, mon ennemi principal, je dirais, mon ennemi principal, c'est quand même la colonisation de notre existence par le néolibéralisme. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Au fond, quand on regarde l'histoire du néolibéralisme, c'est quand même intéressant, c'est les petits collectifs d'intellectuels au départ, qui, à la fin des années 30, ne sont pas satisfaits du keynésianisme du New Deal et veulent en sortir aussi du libéralisme ancien, de type strictement néoclassique. Alors ils vont avoir créer des cénacles, mais ils vont en fait, pendant très longtemps, ça va être dormant, c'est un peu souterrain, et ils vont quand même essayer d'investir des lieux de pouvoir intellectuel et progressivement des lieux de pouvoir intellectuel qui vont avoir la propriété de se connecter avec les lieux de pouvoir politique. Et donc ils vont progressivement, alors c'est pas une théorie du complot, c'est des choses qui se font comme ça un peu l'aveugle, hein, c'est un peu comme du bon Dieu, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un grand orchestrateur quand il y a des phénomènes d'orchestration, il y a des orchestrations sans chef d'orchestre. Des choses qui se font comme ça, effectivement, et qui s'alignent. Il y a une espèce de basculement dans les années 70, parce que tout d'un coup, l'hégémonie culturelle ou l'hégémonie économique du keynésianisme perd de sa force du fait de la crise économique, perd de sa force peut-être aussi du fait d'un épuisement intrinsèque. Ça va coïncider avec l'arrivée au pouvoir de gens qui veulent propager précisément cette nouvelle manière d'envisager donc la financiarisation de l'économie et donc le néolibéralisme. Le moins d'État, Yves de Zalay, par exemple, et Edgar, qui fait quelque chose d'assez intéressant sur le fait que, effectivement, l'un des terrains d'application, c'est dans les années 70, le Chili Pinochet. C'est-à-dire que les économistes qui vont épauler Pinochet lorsqu'il prend le pouvoir en 1973, en renversant l'expérience de l'unité populaire de l'AND, ces économistes-là sont passés par l'école de Chicago. Pas l'école de Chicago sociologique,
très vertueuse, mais l'école de Chicago économique, c'est-à-dire le monétarisme, tout bazar, quoi. Et ils vont implémenter les premières mesures du néolibéralisme, c'est-à-dire vraiment la privatisation à outrance au Chili aujourd'hui, encore aujourd'hui. Il y a tant de choses qui sont encore privatisées, vous ne pouvez pas imaginer, en fait, c'est un pays qui a été sinistré comme ça. Alors, le fait que ce soit une dictature, rien à faire, c'est pas un problème. Cette idéologie-là pourrait survivre dans des tas de régimes politiques autoritaires. Et ensuite, vous avez l'accomplissement, c'est un terrain d'expérimentation. Puis ensuite, bah, vous avez le pouvoir de Reagan aux États-Unis, de Thatcher en Angleterre. Et là, voilà, ça commence à devenir l'idéologie dominante. Et ils vont réussir à déréguler l'économie de manière générale, mais la finance en particulier. Donc en fait, vous avez des phénomènes souterrains qui passent par des petits collectifs, des petits machins, et à un moment donné, qui investissent des lieux de pouvoir. Lorsque d'autres facteurs entrent en jeu, qui sont effectivement importants, et c'est ce qui fait qu'on ne peut jamais rien prévoir parce que c'est trop multifactoriel, on peut basculer d'hégémonie, vous parlez de Gramsci, on peut basculer d'hégémonie, d'une hégémonie culturelle à une autre. Mais créer une hégémonie culturelle, bah, c'est compliqué, et puis donc il ne faut pas perdre espoir quand on est dans des petits collectifs, etc. etc. Il faut bien avoir présent à l'esprit qu'une avant-garde, ça ne suffira jamais. Parce que c'est multifactoriel, il faut que, comme vous disiez, une espèce de coagulation de facteurs, de forces, de causalité, que personne ne maîtrise en réalité. C'est-à-dire que le volontarisme révolutionnaire associe de limiter, à la fois il est important parce qu'une hégémonie ça se travaille, vous ne pouvez pas la créer si vous ne travaillez pas à la créer. Bon, ça ne se fait pas tout seul non plus. Mais en même temps, il ne faut pas être intellectualiste et croire que les seules avant-gardes vont pouvoir créer une situation de masse. Elles peuvent créer des situations, ou alors elles vont avoir le relais d'une forme de contingence. Il y a eu des articles assez intéressants sur les révolutions arabes, et je pense en particulier à un article sur ce qui s'est passé place Tahrir, donc en Égypte. En fait, vous aviez des petits collectifs qui travaillaient à contester le régime de Moubarak, et notamment cette espèce de volonté qu'il avait de se reproduire dans son familialement, de reproduire héréditairement son pouvoir. Donc ces collectifs-là produisent de l'agitation, alors dans les limites d'un régime très autoritaire, bien entendu, mais tout de même produisent de l'agitation. Il y a effectivement des phénomènes, il y a le phénomène, et c'est là où l'internationalisme, ça compte, de la réussite de la révolution tunisienne, alors ça c'est un truc incroyable, qui donne effectivement, qui ouvre le champ des possibles pour plein de gens, et du coup, cet appel à se mobiliser place Tahrir, et c'est une coagulation de plein de groupes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et surtout les avant-gardes, les petits collectifs, si on peut bien les appeler les avant-gardes, les petits collectifs qui étaient militants, qui de façon très valeureuse hein, continuaient à essayer de créer une dissidence dans un régime qui était extrêmement autoritaire, se rendent compte qu'en réalité ils sont dépassés par le nombre. C'est-à-dire que convergent vers la place Tahrir des gens qui n'ont strictement rien à voir avec eux-mêmes. Et là, je pense que les avant-gardes, il faut qu'elles acceptent de passer la main. De passer la main aux innombrables. C'est-à-dire aussi à l'horizontale, etc., en acceptant l'idée qu'elles ont eu leur rôle, qu'elles peuvent toujours avoir leur rôle hein, en tant que collectif, mais elles sont un ou quelques collectifs parmi plein d'autres. C'est le moment horizontal, et ce moment-là, effectivement, il est toujours délicat à négocier pour ceux qui se sont considérés comme des avant-gardes, parce que c'est perdre, c'est accepter de perdre une forme de prééminence, quoi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les événements historiques sont remplis de contingences. Et c'est pour ça qu'on peut travailler à créer des situations révolutionnaires, elles ne viendront pas forcément malgré tout le travail qu'on a fait. Même la Révolution française, c'est fascinant, il y a une part de contingence incroyable dans la Révolution française. Après coup, et ça c'est le problème de la sociologie aussi, c'est le problème des sciences sociales pour nous. Nous venons après coup, et nous essayons de reconstruire les causalités avec une sorte de rétrodiction téléologique. C'est-à-dire, il s'est passé ça, donc c'est qu'il y avait déjà des phénomènes souterrains, etc. Bien sûr, mais il y a des tas de moments où on a l'impression que moi, par exemple, j'ai l'impression que la situation actuelle elle est remplie de raisons de se révolter. La question de savoir si ça va se coaguler et transformer radicalement les choses, ça, par contre, je n'irais pas dire que c'est dans l'avenir proche, quoi. C'est peut-être. En tout cas, personne ne peut totalement le prévoir. Donc effectivement, il y a une part de contingence dans les événements révolutionnaires qui font qu'on ne peut pas les pronostiquer
façon aisée. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler à le faire advenir, si on souhaite, hein, parce que se pose la question de la dégénérescence autoritaire d'un grand nombre de phénomènes révolutionnaires par le passé, quoi. Mais cette part de contingent, donc, du coup, pour les sciences sociales, c'est compliqué de saisir l'événement révolutionnaire. Parce que si vous reconstruisez rétrospectivement les causalités, vous avez toujours en fait, vous rabattez, c'est ce que de Sarko disait sur 68, vous rabattez sur du connu. Or, en fait, le régime de l'événement, c'est précisément qu'il est une éruption qui propage une forme d'inconnu, d'imprévisible, dans le monde social. Et moi, j'y vois une raison d'espérer, en fait, parce que je trouve que c'est intéressant que ne puisse pas tout prévoir. Et donc, il est intéressant pour nos outils de ne pas essayer de rabattre l'imprévisible sur le connu. Ça devait se produire, parce que voilà, il y avait des classements structurels des diplômes, parce qu'il y avait tout un ensemble de raisons de se révolter qui étaient coagulées. Il faut les désigner, c'est le travail de l'histoire. De là à dire que l'événement devait surgir pour cette raison, non, je crois que ça c'est une erreur de catégorie, une erreur d'analyse. Il y a des phénomènes de contingence qui sont extrêmement importants et qu'on ne peut pas complètement prévoir. Voilà. Mais donc ça donne aussi un espoir. C'est que même quand on est désespéré, bah, il peut toujours arriver quelque chose. Je me souviens d'une. Vous vous souvenez du renversement de Milosevic en 2009. Il y a un moment incroyable. Donc il y a des manifestations. Oui, vous avez parlé. Il y a des manifestations contre la réélection pipotée de Milosevic. Une grande manifestation. Mais il y a ce moment incroyable où il y a un type qui réussit à se faufiler derrière la barrière de CRS, l'équivalent en Serbie à l'époque, qui protège le Parlement. Il arrive à se faufiler derrière et à rentrer dans le Parlement, et de là, en fait, c'est comme si une porte, de fait, même symbolique, s'était ouverte, et là, les types se précipitent, et les policiers ne savent plus quoi faire, et en fait, le Parlement est investi. Et il est renversé. Qu'est-ce que c'est que cet acte incroyable, strictement individuel? Peut-être que le renversement aurait eu lieu si cet acte-là ne s'était pas produit, on ne peut pas le savoir. Pas faire d'histoire contrefactuelle comme ça, de point de vue, mais n'empêche que cet acte-là a fait basculer à ce moment-là quelque chose, et je crois que c'est assez fondamental. Donc oui, il y a toujours la possibilité de croire dans les événements révolutionnaires, même quand on a l'impression d'être fou. Ce sera mon petit message.
Et oui, vous êtes toujours sur Les Oreilles Loin du Front, sur Fréquence Paris Pluriel, et on vous a passé des extraits d'une table ronde qui s'est tenue à Poitiers dans le cadre du festival Raison d'agir. Et on a terminé le dernier extrait justement sur l'imprévisibilité de l'histoire et donc l'imprévisibilité des révolutions, ce qui est une forme d'espoir pour la situation actuelle. Et puis aussi qui justifie le titre de cette table ronde, puisque cette table ronde s'appelait Croire en la révolution. Et vous pouvez d'ailleurs trouver l'intégralité des interventions. Donc il y avait 3 intervenants. Il y avait Boris Gobie, qu'on a beaucoup entendu ce soir, mais aussi Éric Brun et Bernard Pudal. Et vous pouvez écouter donc l'intégralité de cette table ronde sur le site de Raison d'agir, raisondagir.org. Voilà. Donc on clôt ce dossier du jour sur cette note d'espoir. Et puis on va passer à la suite.
Mama, mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns are jammed downtown. The killing clowns are blood money men.
Shooting those